Jean Rameau, un empoisonnement au XXIe siècle. C'est vers l'an 1934 que les Français, lentement empoisonnés par leurs fournisseurs de comestibles et par les odeurs nauséabondes qui, après avoir infecté Paris, se répandirent rapidement sur la France entière, s'apercevant que leur nature et leurs besoins avaient complètement changé et que, nouveau Mithridate, ils étaient non seulement armés contre le poison, mais encore qu'ils avaient besoin d'en absorber 3 fois par jour afin de, à moins de mourir d'inanition. Cet état de choses, grâce au progrès des falsificateurs, ne fit qu'embellir. Et en l'an 2056, on dut se mettre à bâtir des villes et des cottages dans les égouts de Paris, à l'usage des mondains et des mondaines qui, délaissant les villes d'eau et les campagnes malsaines, éprouvaient le besoin de se retremper pendant quelques semaines dans les bienfaisants effluves du grand collecteur. En juin 1983, époque à laquelle se passe cette histoire, les étrangers et les touristes étaient fort nombreux dans les égouts parisiens. Toutes les villas étaient occupées et un simple cottage dans les environs du dépotoir de Saint-Denis se louait à des prix fous. La table de la splendide salle à manger est royalement garnie. Et partout, des lumières, des cristaux, des fleurs rares et distinguées, des fleurs artificielles, exhalant les parfums les plus sains et les plus recommandés, dans lesquels dominent la safoétida et la valériane. Et soudain, un grand cri. Le jeune époux roule sous la table. Ciel! Clame sans voix. On s'empresse, on regarde, et l'on constate que la figure du jeune marié prend des teintes violets, comme autrefois les cadavres des gens ayant absorbé certains produits vénéneux. Ah! Oh, mon mari est empoisonné! S'écria la malheureuse épouse. Et elle tomba évanouie. Il était empoisonné, en effet. Une vengeance de femme. Mais empoisonné par quoi? Et à l'aide de quelle substance redoutable? Voilà ce que l'enquête n'avait pas du tout établi d'abord. Mais examinez tous les aliments, tous les breuvages, ordonna l'inconsolable veuve. Aussitôt qu'elle eut repris ses sens, et l'on fit comme elle avait ordonné. On porta le vin au laboratoire municipal. Le laboratoire municipal répondit: vin première qualité, composition 25 parties eau de Seine, 51 parties vitriol, une partie décoction des vieux gants de peau, 3 parties essence de térébenthine, le tout constituant un excellent cru Château-Laville 2046. Alors analysez le vinaigre, l'huile, les légumes, recommanda la veuve qui tenait à savoir comment était mort son mari. Mais tous ces produits furent trouvés irréprochables. Les pois verts provenaient d'une des meilleures fabriques de Grenelle et contenaient 49% d'acétate de cuivre. Le poivre était fourni par un entrepreneur de démolition et ne contenait que de la brique pilée extra. Le vinaigre était riche en ammoniac et en eau de javel. Quant à l'huile, la compagnie d'Orléans n'en avait jamais employé de meilleure pour graisser ses machines. Mais quel poison a donc terrassé mon pauvre mari? Se demanda la veuve éplorée. Ah! Cria-t-elle tout à coup, un verre à la main, à moitié plein, dans lequel elle avait bu le défunt. Qu'est-ce que c'est que ça? Et elle présenta le verre aux experts. Ceux-ci n'eurent pas plutôt jeté les yeux sur le breuvage qu'ils pâlirent d'effroi. Arrière, madame! Arrêtez! Clamèrent-ils. L'esprit traversé par un soupçon terrible. Et, s'étant couvert les mains de gants imperméables, la tête d'un masque à yeux de verre, ils analysèrent le breuvage mystérieux. Ils avaient deviné. Ah, madame, dirent-ils à la veuve aux abois, qui maigrissait de jour en jour, quel crime abominable! C'est un poison affreux, mais un poison foudroyant! Lequel? De l'eau pure! Les serviteurs qui entendirent cela se mirent à claquer des dents et s'enfuirent avec terreur. Mais la veuve infortunée ne s'enfuit pas, elle. Sublime, elle s'approcha des chimistes. Donnez-moi ce restant de poison, dit-elle. Mais pourquoi, madame? Et alors, adorable de grâce et d'affliction, je jurais de mourir le même mort que mon mari. Mais les chimistes refusèrent. Ils firent creuser un trou profond et jetèrent le redoutable liquide. Malédiction sur vous! Cria la pauvre jeune femme. Et, affolée, elle se mit à courir par les rues de Paris, cherchant quelqu'un qui voulût lui faire l'aumône de quelques gouttes d'eau pure. Elle ne trouva pas. Elle alla chez un pharmacien. 2 grammes d'eau pure, monsieur, supplia-t-elle. Avez-vous une ordonnance? Demanda le disciple de Galien. La veuve désespérée visita ainsi tous les pharmaciens de la capitale et leur offrit des monceaux d'or. Tous furent inébranlables. Et alors, affolée, elle quitta Paris et se mit à rôder dans la campagne. Oh, la pluie, se dit-elle. C'est de l'eau pure, cela. Eh bien, je vais attendre qu'il pleuve. Mais, ayant considéré le ciel avec attention, elle vit, ce dont elle se doutait, hélas, que par mesure de sécurité publique, l'État avait fait installer une sorte de toiture en verre sur la campagne, afin que l'eau du ciel ne tombât jamais sur une muqueuse humaine. Une rivière, dit-elle alors, un ruisseau, une source. Mais il n'y avait plus en France de source, de ruisseau ni de rivière. Sagement, l'État s'était fait capter tous les cours d'eau pure de presque tous les habitants des campagnes, alas, s'y empoisonner de peur et la Seine le coulait seule à ciel ouvert, triomphalement à cause de sa richesse en microbes, lesquels étaient tellement gros et si invraisemblablement prospères qu'on se mettait à les pêcher à la ligne de Paris jusqu'au Havre. Et après 8 jours de consevaine, la pauvre veuve s'affaissa, épuisée, dans une plaine déserte, et navrée de ne pas pouvoir pourrir comme son mari, avec résignation, elle attendit la mort. Mais alors le Créateur eut pitié d'elle. Le zénith s'assombrit tout à coup, et au moment où la veuve, inconsolée, balbutiait le nom de son époux, elle expira glorieusement, empoisonnée, ainsi que son bien-aimé. Le ciel, avec d'énormes grêlons, avait crevé la cloche sous laquelle mûrissaient les Français, et miséricordieusement, s'étant aperçu que la veuve avait un nez retroussé, il avait daigné pleurer dedans.